Et juste en passant, si vous n'avez pas en Bible avec vous, il y a une feuille que vous avez reçue à la porte qui a presque tous les versets là-dessus. Donc, on va dire, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et ma vie ne sera jamais plus pareille, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Alléluia. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc vous savez que la semaine passée, nous avons commencé une série, la garantie d'une vie réussie. Et vous savez que souvent, dans la vie, on va acheter des choses et ça vient souvent avec les garanties. Vous êtes d'accord? Garantie à vie ou garantie 2 ans, garantie 5 ans, etc., etc. Garantie 90 jours. Mais laisse-moi vous dire une chose. Quand Dieu nous a donné sa parole est garantie à vie, mais même pour éternité. Est-ce que vous connaissez une compagnie qui pourrait vous offrir une garantie à l'éternité? Qui connaît une compagnie qui peut faire ça? Hein? Mais Dieu, il a fait ça. Il nous a donné un produit, si vous voulez, qui est impeccable. Il nous a donné quelque chose qui est garanti à marcher jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, millénaire après millénaire, la parole de Dieu marche. Amen? Mais combien de personnes ils n'en profitent pas? Et je donne un exemple, je vais juste le dire pour, encore une fois pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée. Parce que vous savez, pour qu'une garantie fonctionne, qu'est-ce qu'on a dit la semaine passée? C'est qu'il faut quand même respecter les normes qui sont décrites dans le livre ou le manuel qui vient avec le produit, n'est-ce pas vrai? Donc Dieu, il veut vous donner une vie où on peut dire c'est satisfaction garantie. Il veut vous rassasier de longs jours. La volonté de Dieu pour vous et pour moi, c'est une longue et une heureuse vie sur la terre. Tout le monde dit longue et heureuse. C'est pas longue et misérable, et c'est pas heureux et court non plus. Dieu veut longue et heureuse. Ça, c'est sa volonté parfaite. C'est pas tout le monde qui atteint cela, mais ça, c'est qu'est-ce que Dieu veut. Et en fait, il nous donne les instructions pour qu'on puisse atteindre ces objectifs. N'est-ce pas merveilleux? Mais comme on a dit la semaine passée, quand on achète un produit qui vient avec une garantie, la garantie est seulement bonne si on respecte les normes ou les règles. J'ai donné l'exemple de la four chez nous. Un jour, ça a fait un bruit bizarre et ça a arrêté complètement de fonctionner et ma femme ne pouvait plus faire quelque chose avec. Donc, j'ai ouvert l'appareil et j'ai vu tout de suite que l'élément de chauffage était cassé en deux. J'ai dit, bon, voilà, j'ai trouvé le problème. Donc ça, c'est pas trop compliqué, même si je suis pas le meilleur technicien au monde, je suis capable quand même, au lieu d'appeler un monsieur pour avoir un service, je vais le changer moi-même. Donc je l'ai changé. Pas de problème. Sauf que ça n'a toujours pas marché. Hein? Donc, de toute façon, on voyait clairement que ça, c'était l'élément de chauffage, c'était le fruit du problème et pas la racine du problème. Le problème était ailleurs. Et là, on a découvert, on a déduit que le problème venait d'un petit ordinateur qui se trouve en haut de la cuisine, de la cuisinière. Donc là, je me suis dit, bon, et il est venu dans ma tête que ça doit toujours sous garantie. Et effectivement, on a vérifié la date et il nous restait juste quoi? Quelques jours ou semaines, je ne m'en souviens plus de tous les détails, mais c'était toujours sous garantie. Donc, en principe, la compagnie devrait payer pour remplacer cela. Donc, j'appelle et qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce que j'ai expliqué la situation là, j'ai changé l'élément de chauffage, j'étais honnête. Ils ont dit, mais là, tu as touché à l'appareil toi-même, tu as essayé de régler le problème toi-même, la garantie n'est plus bonne. Ah, voilà. Hein? Combien de fois, vous savez, spirituellement, si vous essayez de mener votre vie selon votre volonté, si vous pensez savoir mieux comment régler les choses dans votre vie, réparer des choses dans votre vie, mettre des choses en ordre. Et si vous essayez de le faire selon l'homme, selon la chair, selon vos idées humaines, sans consulter les instructions, la garantie d'une vie réussie ou une satisfaction dans votre vie n'est plus bonne. Est-ce que vous me suivez? Je ne parle pas de quelque chose, par exemple, si vous avez fait des erreurs dans le passé, la bonne nouvelle, c'est que notre Dieu est miséricordieux, beaucoup plus miséricordieux que les compagnies aujourd'hui, n'est-ce pas bon? Et on peut crier, « Au secours, Seigneur, grâce, j'ai miséricorde, j'ai besoin, Seigneur, de ton pardon. » Il donne son pardon. Il nous donne aussi la justification. Et il nous donne pas juste la miséricorde, mais aussi la grâce pour pouvoir avoir la faveur et le pouvoir de faire qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Donc, le message, c'est un bon message d'encouragement. Mais qu'est-ce que je veux que vous compreniez? C'est que si vous menez votre vie selon la parole de Dieu, vous êtes garanti, tout le monde est garanti, d'avoir de la satisfaction à 100%. C'est garanti. Mais la minute que vous commencez à faire des compromis, bon, mais je sais que ce n'est pas vraiment supposé de faire ça, je vais le faire quand même selon mon plan, selon ma volonté, là, vous gâchez la garantie. Et combien de chrétiens est-ce que vous connaissez qui ont fait des compromis? Au lieu de suivre les instructions, ils pensaient savoir mieux que Dieu. Dieu avait donné une garantie à Adam et Ève, n'est-ce pas, dans le jardin. Il a dit, mangez de tout ce que vous voulez, regardez tous ces arbres. Et ils étaient supposés d'être toujours rassasiés, toujours contents, toujours avoir une provision abondante, mais ils ont pris une décision, ils pensaient savoir mieux que Dieu, n'est-ce pas? Donc, ils ont désobéi aux instructions que Dieu a données. Donc, ce matin, on va voir que pour avoir la garantie d'une vie réussie, il faut suivre les instructions. Psaume 107, versets 8 et 9, dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. N'est-ce pas merveilleux de savoir que notre Dieu est bon? Il n'est pas méchant. Et pour ses merveilles, en quoi? En faveur des fils de l'homme. Mais là, quand on voit le mot « faveur » maintenant, on pense toujours aux choses que Pastor Nari a enseignées dernièrement, la grâce et la faveur de Dieu, des fils de l'homme, quand il a satisfait l'âme altérée. Qu'est-ce qu'il a fait avec l'âme altérée? Il a satisfait. Laisse-moi vous poser la question, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes rassasié dans votre vie? Sinon, Dieu veut que vous soyez rassasié. Et je vous dis, il n'y a rien qui peut vous combler comme le Seigneur lui-même. Essayez de combler votre vie ou rassasier les désirs de votre cœur avec les choses de ce monde. Vous serez frustré et déçu fois après fois. N'est-ce pas vrai? Mais regardons, il y a un autre verset qu'on va lire ensemble. C'est Josué 1:8. On a vu cela la semaine passée. Que ce livre de la loi, tout le monde dit ce livre, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Donc, soulignez les mots succès et réussira. Combien de vous voulez avoir du succès dans votre mariage, dans vos finances, dans votre santé? Combien de vous voulez réussir dans vos études, dans vos commerces, ou dans vos relations? Il y a juste 5 ou 6 personnes qui veulent réussir. On a un grand problème dans cette église ce matin. Donc, combien de vous voulez réussir? Savez-vous, réussir, c'est pas péché? Il y a des personnes qui pensent en réussir, c'est ouh, c'est... Ça, c'est pour les autres, les gens du monde. Pourquoi? Parce qu'on a une mauvaise idée de c'est quoi le succès. Le succès, c'est pas un gros bateau, une grosse maison, une grosse auto. Le succès, c'est de faire et accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Amen. Et ça, c'est le succès. La réussite, c'est d'être capable de poursuivre avec tout notre cœur, avec passion, la volonté de Dieu pour notre vie. Mais on voit ici que c'est alors que tu réussiras. Verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Donc voilà le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Et regardez droit dans les yeux. Dieu veut que tout ce que vous fassiez, que tout ce que vous entreprenez réussisse. Amen. Dieu ne veut pas que vous ayez des échecs dans votre vie. Mais attention, attention, il faut bien définir les échecs aussi, n'est-ce pas? Hein? Comme j'aime beaucoup quelqu'un qui a dit, on n'a pas des échecs dans l'Église, seulement les démarches qui n'ont pas fonctionné. Et des fois, on a besoin de faire des petits ajustements. Mais des fois aussi, qu'est-ce qu'on voit comme un échec? Ce n'est pas forcément un échec. Hein? Et n'oublions pas, Jésus a dit que dans ce monde, vous aurez de la tribulation, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, quand je parle d'une vie réussie, une vie qui a le succès, je ne suis pas en train de dire que vous n'aurez jamais des moments difficiles ou que vous n'aurez jamais des épreuves, vous n'aurez jamais la tribulation, mais vous aurez toujours la victoire dans l'épreuve, selon Romains 5, n'est-ce pas? Tout le monde dit victoire dans l'épreuve. Alléluia! S'il n'y a pas d'épreuve, on ne peut pas vraiment dire que c'était une victoire. Hein? Si les Flyers de Philadelphie auraient arrivé... peut-être que je ne devrais pas en parler ce matin. Hein? Je ne peux pas faire de la peine aux gens. Hein? Mais si, imaginez si hier soir, les Canadiens n'auraient même pas le goût de se présenter sur la glace. Et c'est juste les Flyers qui se présentent sur la glace. Est-ce qu'ils auraient pu dire, bon, on a gagné une grande victoire ce soir? Non, ce n'était pas une grande victoire parce qu'il n'y avait pas de combat. Dans la vie chrétienne, il y a des combats, mais dans les combats, il y a toujours, tout le monde est toujours, toujours la victoire pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Amen. Et des fois, on peut penser que la bataille est perdue. On a parlé de Joseph. Hey, je suis vendu, je suis esclave, ça ne marche pas. Mais Dieu a changé qu'est-ce que l'ennemi a voulu pour la destruction, pour sa gloire. Amen. Mais là, il est rendu en prison. Mais Dieu a changé qu'est-ce que l'ennemi voulait pour sa destruction, pour sa gloire. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On voit que la satisfaction garantie à 100%, ça dépend d'une chose en particulier. Et ça, c'est le rôle de la parole de Dieu dans notre vie. Et c'est ça vraiment, si on pourrait dire dans une phrase, le message aujourd'hui, c'est que c'est la parole de Dieu qui est la garantie de votre succès. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Le succès et la réussite dépendent de ce livre. Mais ce n'est pas un livre sur l'étagère qui va vous donner le succès. C'est la parole qui sont contenues dans ce livre, qui se trouve dans votre cœur et dans votre bouche, qui vous donnera le succès. Amen? Mais combien de chrétiens, ils se trompent et ils font l'erreur de penser que ce livre n'est pas si important que ça. La parole de Dieu, bon, je peux le prendre, je peux le laisser, c'est pas si grave, c'est pas si important que cela. Et c'est là où ils vivent pas dans la plénitude de qu'est-ce que Dieu a planifié pour eux. Les gens ne comprennent pas la puissance qui se trouve dans la parole de Dieu. Savez-vous qu'il y a rien? Tout le monde dit rien. Regarde quelqu'un et dit, il y a rien qui est plus puissant ou plus important que la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Amen? N'est-ce pas vrai? On va voir cela. Parce que la parole de Dieu a une puissance. La parole de Dieu est la chose qui va produire la victoire et le succès dans votre vie. Et sans la parole, vous serez toujours sans victoire. Sans la parole, vous serez toujours sans réussite. Sans la parole, vous serez toujours sans satisfaction. Vous serez comme, c'est quoi, Mick Jagger, n'est-ce pas? Non, c'était Mick Jagger? Non, qui chantait « I can't get no satisfaction hein? ». Il ne pouvait pas avoir de satisfaction. Pourquoi? Parce qu'il ne vivait pas selon la parole de Dieu. Mais ce n'est pas un commentaire négatif que je veux faire sur lui, personnel. Donc mais qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que n'importe qui, que ce soit Joseph, Josephine, Mick Jagger ou n'importe qui, si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, on ne peut pas avoir de la satisfaction. Amen. Regardons, il y a un verset merveilleux, et ce verset est venu dans mon esprit cette semaine, et je sais que Dieu veut nous parler à travers ce passage ce matin, pour terminer. Ésaïe 55. Or, la pluie et la Neige. On n'aime pas trop parler de ça maintenant. Est-ce qu'on peut oublier? Est-ce qu'on peut dire que le passé, oubliant ce qui est en arrière, n'est-ce pas? Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir, quoi, arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les grains qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qui doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole de que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais, et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Le second, je crois, dit, sans avoir exécuté ma volonté. Savez-vous quoi? La parole de Dieu exécute la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu qui produit le fruit de sa volonté dans votre vie. Et j'ai trouvé une image, parce qu'on parlait de ça, la pluie, la neige, et j'ai trouvé une image sur l'Internet, et je ne sais pas si ça va être facile à voir, mais est-ce qu'on peut essayer? Je vais vous montrer une image de la neige, et qu'est-ce que ça fait dans la vie. On va essayer. Et on va voir ici exactement de ce dont la Bible parle dans ce passage de Ésaïe 55. La pluie et la neige qui descendent du ciel. Il y a un but pour cela. Il y a une raison pour cela. C'est pas pour rien que la neige et la pluie tombent sur. Est-ce que tout le monde peut voir la petite image? Est-ce qu'on peut cliquer là-dessus? Tu vois la neige? On va voir la neige fondre. Tout le monde est capable de voir? Oui, la neige fond. Et voilà, est-ce que tu vois? On ne voit pas grand-chose, on voit la terre, on voit le sol. Mais regarde qu'est-ce qui va arriver. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez les petites plantes qui viennent de pousser? La neige est fondue et à la surface, on ne voyait rien. On dirait qu'il n'y a pas grand-chose. Mais parce que la neige a fondu, et parce que la neige est descendue dans la terre a été capable de produire un fruit. La terre a été capable de faire pousser de l'herbe. Et savez-vous quoi? Sans la neige, sans la pluie, la terre ne peut pas produire du fruit. Et vous, en tant que chrétien, Jésus, c'est pas moi qui l'invente, Jésus a dit que votre cœur est comme, quoi, la terre, n'est-ce pas? Vous vous rappelez des paraboles du semeur? Il y avait quatre jambes de terre, il y avait la terre qui était à côté du chemin, qui était trop dure, la semence n'était pas capable de pénétrer, et à cause de ça, les oiseaux venaient manger et ça portait pas du fruit. Il y avait aussi la terre pierreuse, et là, la semence était plantée, mais ça poussait vite, mais parce qu'il y a manqué de racines, le soleil a séché et ça n'a pas duré. Il y avait aussi la terre avec les épines. Et ces épines ont étouffé la parole de Dieu. Mais il y avait aussi la bonne terre. Tout le monde dit la bonne terre. Mais même la bonne terre a besoin d'eau, n'est-ce pas? Et savez-vous que la parole de Dieu est comparée à quoi? La parole de Dieu est comparée à la pluie et à la neige. Encore, sans changer de diapo, on va relire Ésaïe 55. Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les grains qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qui doit semer et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de quoi? De la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je vais fixer. Donc, on va voir dans ce passage quatre choses que la parole de Dieu fait dans votre vie. Quelles sont les quatre choses? Premièrement, la parole de Dieu amollit le cœur. Savez-vous, il y a des personnes qui ont les cœurs durs. C'est dur, la semence ne peut pas pénétrer, ou s'il y a une semence cachée en dessous de la terre, ça va être difficile à vraiment pousser, les racines vont avoir de la difficulté à s'étendre. Mais là, on voit que quand la neige tombe, ou quand la pluie tombe, et quand la terre est trempée de cette eau, que ça va amollir, ça va rendre la terre plus molle, et ça va faire en sorte que les graines sont capables de germer et de pousser. N'est-ce pas bon de savoir que si aujourd'hui votre cœur est dur, si votre cœur a de la misère à produire du fruit, que plus vous êtes trempé dans la parole de Dieu, plus vous serez prêt à porter du fruit. Amen. J'aime ce verset en Psaume 65, verset 10. Tu donnes à tous ces sinons de l'eau en surabondance. Dieu, il est généreux avec sa parole, n'est-ce pas? Tu en aplanis les modes, tu l'amollis par les pluies et tu bénis ce qui germe. Faites la parallèle spirituelle et vous allez apprendre des choses. Amen. Encore, ça nous fait penser à Marc 4, 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donnait du fruit qui montait, qui croissait. Elle a rapporté 30, 60 et 100 pour 1. C'est ça que je veux, n'est-ce pas? Moi, je veux que mon cœur soit mou, pas dans le sens que je n'ai pas de colonne, mais dans le sens que je suis prêt à recevoir la semence de la parole de Dieu et je suis prêt à porter du fruit. Quand Dieu me parle, je dis oui, Seigneur. Quand je vois des situations où les personnes qui sont dans le besoin, je veux que mon cœur soit ému de compassion. Et savez-vous que plus on est dans la parole, plus notre cœur va être ému, plus notre cœur va être capable de recevoir et de faire pousser la semence. Amen. Donc, deuxième chose, la parole de Dieu nous rend féconds. C'est la parole qui nous rend féconds. Dieu veut qu'on soit féconds, il veut qu'on porte du fruit. Le même verset de Psaume 65, verset 10, dans la Bible français courante, dit ceci. Tu irrigues ses filons, tu aplanis ses mottes, tu la détrempes par la pluie, tu donnes au grain, quoi? La force de germer. C'est la parole qui donne toutes les plans de Dieu, la volonté de Dieu qui se trouve dans votre cœur, c'est la parole qui va vous donner la force de l'accomplir. Combien de vous, vraiment, honnêtement, vous voulez vraiment faire la volonté de Dieu? Vous ne serez jamais capable de faire la volonté de Dieu si vous n'êtes pas trempé dans la parole. Si la pluie et la neige de la parole de Dieu n'ont pas, eux, effet, vous n'allez jamais accomplir la volonté de Dieu. Amen? On l'a vu, hein? Pour que l'herbe pousse, il fallait absolument avoir de l'eau. Amen? Regardons 2 Pierre chapitre 1, verset 8. Car si ces choses sont en vous et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Moi, je ne veux pas être stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux être fécond. Je veux porter du fruit. Et vous? Une autre chose que la parole de Dieu fait, la parole fait pousser ce que Dieu a déjà planté en vous. Tout le monde dit déjà. Ça, c'est un mot-clé dans ce point. Il y a des choses que Dieu a déjà plantées en vous. Vous vous rappelez de vidéo qu'on a vue? La neige est fondue et à la surface, on voyait rien. On voyait la poussière, n'est-ce pas? Mais en dessous de la poussière se trouvaient les graines, les semences. Et c'est seulement après que la neige était fondue et que ces semences ont reçu la force de la neige, que cette semence qui était déjà présente ont pu pousser et produire. Ce mot germer, pousser, ça veut dire aussi paraître. Ce mot dit paraître. Il y a des choses que Dieu a plantées dans votre cœur qui sont invisibles aujourd'hui, que je ne peux pas voir avec mes yeux. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il y a des plans. Il y a des projets. Il y a des bonnes œuvres. Nous sommes son ouvrage et on a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance afin que nous puissions les pratiquer. Combien de choses se trouvent dans votre cœur aujourd'hui et vous ne savez même pas? Combien des choses que Dieu a planifiées pour vous? Est-ce que vous m'écoutez ce matin? De un, la Bible dit, on l'a souvent sur le diapo aussi, on a un verset super intéressant ici, qui parle de la nouvelle naissance. 1 Pierre 1, 23 dit, « Puisque vous avez été régénérés, combien de vous êtes nés de nouveau et vous le savez? Comment est-ce que vous êtes nés de nouveau? Vous êtes régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est-à-dire que la journée même que tu as invoqué le nom de l'Éternel. La journée même que tu as dit, je confesse que Jésus est mon Seigneur, je crois que Dieu l'a ressuscité des morts. Bah, Dieu a planté en vous une semence de la parole vivante. Et c'est qui la semence? Oh, c'est tout un, on pourrait parler longtemps là-dessus. La semence d'Abraham, c'est qui? C'est Jésus. C'est la semence que Dieu a bénie. C'est la semence qui est devenue héritier de toutes choses. Et cette semence a été plantée dans votre cœur. Il est déjà là. Mais combien de fois il n'apparaît pas? Il paraît pas, on ne le voit pas dans les vies de beaucoup de chrétiens. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on ne voit pas toujours Jésus dans les vies de certains chrétiens? Et tu dis, ah oui, oui, celui qui est assis à côté de moi. Non, 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 on pense pas à celui qui est à côté. On pense à soi-même ce matin, n'est-ce pas? Quand on pointe un doigt, il y a toujours trois qui pointent vers nous, n'est-ce pas? Mais pensons à ça. Pourquoi est-ce que, comment est-ce que ça se peut même qu'une personne peut être née de nouveau, régénérée, la semence incorruptible de Jésus est plantée dans son cœur, mais il ne paraît pas? C'est parce qu'il manque des voies. Tout ce qui manque, c'est de l'eau. Pourquoi est-ce que la semence qu'on a vue sur la vidéo, les plantes ne paraissaient pas? Pourquoi? Parce qu'il fallait attendre que la neige soit fondue. Et une fois que la neige était fondue, ça a donné la force à cette semence à germer, à pousser, à apparaître. Et savez-vous quoi? Toutes les choses que Dieu a plantées dans votre cœur, ils vont rester dormants. Le plan de Dieu pour votre vie va rester dormant. Le caractère de Dieu, le fruit de l'Esprit va rester dormant dans votre vie aussi longtemps que la pluie et la neige n'ont pas fait l'œuvre. C'est quoi la pluie? C'est quoi la neige? C'est la parole de Dieu. Est-ce que vous suivez ce matin? Amen. Donc, ces choses sont déjà en vous. Donc, on va continuer. Ésaïe 61, verset 11 dit, « Comme la terre fait pousser les graines germées, et comme le jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, va faire, quoi? Germer la justice et la louange aux yeux de toutes les nations. » Savez-vous quoi? Que quand vous êtes trempé dans la parole de Dieu, tout le monde est trempé. Quand vous êtes trempé dans la parole de Dieu, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire pousser la justice de Dieu dans votre vie et la louange de Dieu. Vous serez plus capable de le retenir. Vous aurez le goût de gloire à Dieu. Wouh! Alléluia! La louange, Dieu est bon! Moi, quand j'avais 17 ans, j'ai eu un leader spirituel qui voulait... C'était pas mon leader spirituel, j'ai dit un leader spirituel, ok? Quelqu'un qui travaillait avec les jeunes, mais qui croyait pas au baptême du Saint-Esprit, par exemple, ok? Qui croyait pas qu'on pouvait être rempli de l'Esprit, avec l'évidence de parler en langue, il croyait pas à ça. Donc, je le dérangeais, je pense, parce que j'étais tellement en feu pour Dieu, et tellement reconnaissant pour la miséricorde de Dieu, parce que Dieu m'a sauvé, il m'a délivré, que toujours et en tout temps, quelque chose arrivait, je disais toujours, gloire à Dieu, quand je pensais à sa bonté, je disais, gloire à Dieu, je le dis en anglais à l'époque, j'avoue, hein, c'est praise God, praise the Lord, glory to God, mais j'étais sérieux, là. Mais un jour, il m'a pris à part, il dit, tu sais quoi, quand on dit praise the Lord, il faut toujours avoir une raison pour le dire. Il ne faut pas le dire trop souvent. Sinon, ça va manquer. Mais je dis, crois-moi, j'ai une raison de dire praise the Lord. Je suis heureux. Je suis content. J'étais peut-être un peu fanatique. C'est sûr que quand je faisais les bennes, on dit ça, les donuts avec l'auto dans la neige. Ah, gloire à Dieu, c'est fun. Mais j'étais en joie et j'étais heureux de vivre en règle avec Dieu. Et j'étais trempé dans la parole, donc à chaque fois que je lisais la Bible, c'est « Waouh, gloire à Dieu !» Ça fait pousser la louange à Dieu. Donc, si vous n'avez pas le goût de louer, peut-être vous n'êtes pas assez trempé. Amen. Peut-être. Juste peut-être. Donc, la quatrième chose que la parole fait pour nous, la parole de Dieu vous rend utile et heureux dans la vie. Tout le monde dit « utile et heureux ». On parle de satisfaction garantie. Pour être satisfait dans la vie, il faut être utile. Vous savez que Dieu vous a créé pour travailler. Moi, je ne pense pas qu'au ciel, on va juste flotter sur un nuage avec un arbre. Si vous croyez ça? ça serait plate, ça serait ennuyant. On va faire quelque chose, on va avoir du boulot, mais ça ne serait pas un fardeau, ça serait une joie, n'est-ce pas? Et on va travailler pour un patron qui est numéro un, n'est-ce pas? En fait, on va travailler pour un patron qui est déjà mort pour nous, qui a déjà versé son sang pour nous. Donc ça, c'est pas un fardeau à ce moment-là, vous êtes d'accord? Mais vous savez que souvent, on est frustré, on n'est pas satisfait parce qu'on n'a pas l'impression qu'on fait une contribution à quelque chose qui vaut quelque chose sur la terre. Vous êtes d'accord? Si c'est juste mettre au boulot dodo, il n'y a pas de but, pas d'objectif, pas de raison d'être, mais c'est le Seigneur, c'est la parole qui nous donne notre raison d'être. Et c'est ça qui va vous rendre utile et heureux. Il y a un verset en Hébreux 6:7 qui dit « Lorsque une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, tu m'en dis souvent, et qu'elle produit une herbe, quoi? Utile à ceux qui elle est, utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. » Est-ce que vous voulez participer à la bénédiction de Dieu? C'est ça qui va vous rendre heureux, n'est-ce pas? Mais savez-vous, est-ce que vous avez vu le lien? Une terre, on pense à une terre qui reçoit souvent la pluie et produit de l'herbe ou une végétation qui est utile pour la personne qui cultive la terre. Et quand vous savez que vous êtes trempé dans la parole et vous produisez un fruit qui est utile pour Dieu, ma vie compte. Je fais quelque chose. Laisse-moi vous dire, les jeunes qui sont ici aujourd'hui, voulez-vous avoir de la satisfaction? Faites quelque chose qui compte pour Dieu. Vous allez savoir, ma vie est utile. Je fais quelque chose. Ce n'est pas toujours des choses religieuses. Mais peu importe ce que Dieu a mis dans votre cœur, faites-le avec amour, pour sa gloire, et vous allez être utile pour Dieu et vous allez être heureux dans la vie. Satisfaction garantie. Amen. Regardons 2 Pierre 1, 4. « Lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Par quoi? Par les promesses de Dieu. C'est par la parole de Dieu qu'on peut devenir participant de la nature divine. On peut être utile et on peut être heureux dans la vie grâce à sa parole. Amen. Donc, trois points. Maintenant, on est rendu à OMC. Quelqu'un peut me dire, c'est quoi OMC? Oui, mais comment? Ça, c'est bien beau. Je veux que la parole fasse ces quatre choses, mais oui, mais comment est-ce que je peux appliquer ça dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire? Il y a trois choses que un de nos textes a dit, c'est clair. C'est une petite recette qui marche et qui est garantie à fonctionner jour après jour, semaine après semaine. Et on l'a déjà lu, on va le relire en Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, si on a dit que c'est la parole de Dieu qui va rendre notre cœur plus mou pour recevoir la parole, ça va amollir notre cœur. C'est la parole de Dieu qui va nous rendre féconds. C'est la parole de Dieu qui va faire pousser ce que Dieu a déjà planté à nous. C'est la parole de Dieu qui va vous rendre utile et heureux dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour bénéficier de la parole de Dieu? Parce que la parole sur l'étagère, est-ce que vous êtes d'accord, ça produit pas grand-chose? La glace qui est dans votre frigo ne va pas faire pousser le gazon chez vous. Vous êtes d'accord? C'est pas l'eau qui se trouve à l'intérieur du frigo qui va faire pousser ou germer les plantes. C'est seulement et uniquement l'eau qui va pénétrer le sol, qui va pénétrer la terre et qui va atteindre la semence pour lui donner la force, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose pour nous. La parole de Dieu doit être incorporée dans notre vie. On a besoin de recevoir la parole d'une façon efficace. Trois choses qu'on a vues. Numéro un, laissez-vous saturer de la parole en la méditant. Saturer. Tout le monde dit saturer. Vous savez c'est quoi d'être saturé? Vous avez déjà eu l'expérience d'être saturé? Posez-vous la question aujourd'hui. Je me pose la question aujourd'hui. Est-ce que je suis saturé de la parole de Dieu? Ou est-ce que moi, je sais c'est quoi, des fois, on est tellement occupé que bon, mais j'ai pas vraiment le temps de me tremper dans la parole, je vais juste prendre quelques petites gouttes. Penses-tu que deux gouttes d'eau auraient produit autant de plantes que nous avons vues sur la vidéo? Non. Ça prenait quand même une bonne quantité. Il faut que nous soyons saturés par la parole de Dieu. Est-ce que votre cœur est saturé? Et voici une bonne façon de savoir si votre cœur est saturé. Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi le test de savoir si votre cœur est saturé de la parole de Dieu? C'est pas le seul test, c'est un test. C'est quand la dernière fois vous avez eu la chance de vous écouter et d'entendre qu'est-ce qui sort de votre bouche. Parce que Jésus a dit de l'abondance, comment on dit l'abondance? De l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc si les choses qui sortent de votre bouche sont des choses négatives, les choses qui ne sont pas de Dieu, si ce n'est pas la parole de Dieu, et quand je dis la parole de Dieu, je ne suis pas en train de dire forcément que tu dois citer 1 Pierre 2:10. Selon 2 Timothée 3:8, dans la version qui est tirée du Septante. Non. Des fois, on peut dire les choses qui ne sont pas forcément une citation de la parole, mais qui sont en ligne avec la parole. Amen? On ne veut pas devenir des robots, hein? Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité. Non, on veut vivre. On veut respirer. On veut se laisser tremper dans la parole. Mais une bonne façon de savoir si vous êtes trempé, qu'est-ce qui sort de votre bouche? Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. La méditation, ce n'est pas juste lire dans le silence et réfléchir. La méditation, c'est murmurer. On dit cela. C'est comme quelqu'un, encore, la méditation, c'est l'inquiétude. Mais on pourrait dire ceci. L'inquiétude, c'est la méditation tordue. Est-ce qu'il y a des gens qui savent s'inquiéter? Qu'est-ce que je vais faire ce mois-ci? Je ne sais pas comment je vais payer les factures. Oh, tu as entendu? Oh, les enfants commencent à tousser. Oh, il se peut qu'ils ont attrapé la grippe. Et si eux autres ont attrapé la grippe, moi aussi, je vais attraper la grippe. Et si j'attrape la grippe, là, je ne serai pas capable d'aller au travail. Si je ne vais pas au travail, si je manque une autre journée de travail, ils vont sûrement me virer. Oh, et s'ils me virent, je ne serai pas capable de payer la facture. Si je ne paye pas la facture, ils vont couper l'électricité. Là, il va faire froid dans la maison et ils vont attraper encore des choses. OK? Ça, c'est l'inquiétude. Mais la méditation, c'est le contraire. C'est s'inquiéter. Il faut apprendre à inquiéter la parole. S'inquiéter la parole. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oh, merci Seigneur. Tu as dit que je suis plus que vainqueur. Et si je suis plus que vainqueur, c'est-à-dire que, en toute chose, je peux toujours triompher. Et si je triomphe toujours en toute chose, et voilà, on continue. Je marche dans la faveur de Dieu. Et si je marche dans la faveur de Dieu, c'est-à-dire que, c'est pas probable qu'ils vont me donner une promotion au travail. Et quand il me donne une promotion au travail, là, je serai capable de prendre mieux soin de mes affaires. Je serai capable de donner plus pour l'œuvre de Dieu. Et si je donne plus pour l'œuvre de Dieu, là, je suis en train de méditer. Amen. Mais dis-le à haute voix, ça va vous aider. Trempez-vous, soyez saturés dans la parole de Dieu. Moi, je pense qu'on devrait être tellement remplis de la parole que quand quelqu'un nous touche, quelqu'un fait quelque chose, que... Oh, ça, c'est... Je viens de piquer la vitre de ma femme. Je veux tremper. Mais il faut qu'elle soit trempée aussi. Donc, voilà. Je m'excuse, chérie. Laissez-vous saturer de la parole. Colossiens 3:16. Que la parole de Christ réside et vive au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire la vraie sagesse qui vous permettra de vous instruire et de vous avertir les uns les autres. N'est-ce pas beau? Psaume 1:1. Heureux l'homme. Est-ce que vous voulez être heureux? Satisfaction garantie. Tout le monde dit satisfaction garantie. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, on peut dire dans la parole de Dieu. Et qui la médite jour et nuit. Voici une clé de votre succès. On peut méditer la parole jour et nuit parce que ça devrait, on ne devrait avoir que la parole de Dieu qui est dans notre cœur. Que les choses qui sont en accord avec la parole de Dieu dans notre cœur. Encore, cela ne veut pas dire que j'ai forcément besoin, et au moment donné, il faut faire le téléchargement. Au moment donné, il faut prendre le temps et de vraiment parcourir les Écritures et de prendre le temps de méditer et de lire la Bible. Mais vous savez que vous pouvez arriver à une place où la parole est tellement dans votre cœur que si un jour vous oubliez votre Bible dans l'auto ou à la maison, que vous ne serez pas perdu. Vous serez capable d'avoir une dévotion. Ça m'arrive des fois. Ah, j'ai pas ma Bible. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire sortir de mon réservoir la parole de Dieu. Je vais choisir un verset et je vais dire, Seigneur, je vais méditer ça. Et ce mec est déjà là. Amen. Et vous ne soyez pas inquiet, vous n'avez pas besoin de la référence. C'est quel chapitre, quel verset? Ça, c'est les hommes qui ont ajouté les versets, les chapitres. C'est utile, mais ce n'est pas obligatoire. Amen. Méditez la parole. Que ça soit dans votre cœur, que ça soit dans votre bouche. Et jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, tout le monde est garanti 100%. Numéro 2, relâchez la puissance de la parole en y croyant. Savez-vous que la parole de Dieu est puissante seulement si, je dis, la parole de Dieu, laisse-moi le redire. La parole de Dieu est puissante pour vous seulement si vous croyez à la parole. Elle a une puissance. La semence contient une puissance qui est dormante, n'est-ce pas? Et on peut, ils ont trouvé les semences en Égypte qui avaient quelques milliers d'années, mais ils ont planté les semences, ils ont arrosé les semences et ça a poussé. Pourquoi? Parce que la semence est puissante, mais la puissance ne se manifeste pas à moins qu'on y croit. Et c'est ça qu'on, c'est pas moi qui invente cela. Regardons en Thessaloniciens 2:13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, que vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui quoi? Qui agit en vous qui croyez. En qui est-ce que la parole agit? En ceux qui croient. Si vous ne croyez pas à la parole de Dieu, la parole de Dieu ne va pas agir pour vous. Et la parole de Dieu ne va pas donner la force aux graines de semences, le plan de Dieu, les rêves de Dieu, la vision de Dieu pour votre vie, va pas recevoir la force de la pluie ou la force de la neige aussi longtemps que vous n'y croyez pas. Mais la bonne nouvelle, parce que Marie nous a parlé de ça mercredi, c'est que la foi vient. C'est comme un cycle glorieux. Glorieux, c'est un cycle, n'est-ce pas? C'est pas une cycle, c'est un cycle. Un cycle glorieux. On a parlé des cycles vicieux, mais ici, on a un cycle glorieux. Plus on médite la parole, plus on y croit, parce que la foi vient. Et plus on y croit, plus elle agit. Et plus elle agit, plus on y croit. Et c'est un cycle vicieux, n'est-ce pas? Ah, pardon, et c'est un cycle glorieux. Vous savez, c'est vrai qu'on a travaillé jusqu'à 2 heures du matin sur le montage, mais... Hébreux 4:2 dit ceci. Mais la parole qu'ils attendirent ne leur servit de rien. Comment ça? Est-ce que la parole manquait de puissance? Non. N'étant pas, quoi? Mêlée avec la foi dans ceux qui l'entendirent. Comme j'ai souvent dit, quand j'étais jeune, j'aimais jouer avec le vinaigre et le soda. Parce que on met les deux ensemble, réaction, explosion. Savez-vous quoi? La parole sans la foi est dormante. Mais la parole mélangée avec la foi est puissante. Amen? Donc finalement, on va terminer avec ce dernier point. Lorsqu'on parle de comment bénéficier de la parole, il faut se laisser saturer de la parole en la méditant. Il faut relâcher la puissance de la parole en y croyant. Et il faut vraiment agir fidèlement sur la parole en l'obéissant. Qu'est-ce que ça donnerait de lire la Bible ou d'écouter la Bible ou de méditer la Bible si on ne veut pas obéir à la Bible? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Pourquoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, n'est-ce pas? Jacques 1, 25, j'aime beaucoup ce passage dans la parole vivante. Par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui nous donne la vraie liberté, et s'il l'étudie assidûment, s'il vit avec elle, est-ce que vous vivez avec la parole? Soulignez cette phrase. S'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi, non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme sera dans la misère, aura des échecs, va avoir du trouble dans sa vie. Est-ce que c'est ça qui est marqué? Non, un tel homme trouvera le bonheur en obéissant la parole. Vous voulez trouver le bonheur? Regardez-moi encore une fois, droit dans les yeux. Satisfaction garantie, 100%. Une vie réussie, le succès, la réussite, garantie, 100%. Alléluia, on va se lever debout. On va prier ce matin. Alléluia. Alors, c'est votre choix maintenant. Combien de vous êtes prêts à vous laisser saturer dans la parole cette semaine? Au lieu de vous être saturé avec la télévision, la radio, ceci et cela, ce serait peut-être bon des fois, à l'occasion de... Ou peut-être... sur une base régulière, de fermer cela et ouvrir notre cœur à la parole de Dieu. Et de se laisser saturer, tremper, en méditant la parole de Dieu. De relâcher la puissance en y croyant. Et d'agir fidèlement en l'obéissant. Père, merci au nom de Jésus. Et ce matin, j'aimerais qu'on prie. On va dire ceci. Merci Seigneur pour ta parole. J'ai une garantie, satisfaction, garantie à 100%. Si je suis ta parole, si je me laisse tremper, saturer en méditant ta parole, si j'y crois, ta puissance va agir. Si j'agis fidèlement, par obéissance, je serai heureux, satisfait, à 100%, au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de partir, moi je me suis engagé devant Dieu, devant le Seigneur. Je vous invite à rester juste calme pour une minute de plus, si c'est possible. Parce que le moment qu'on va avoir là, c'est peut-être le moment le plus important de toute la réunion. Parce que c'est le moment où je vais donner l'occasion à ceux et celles qui sont ici présents de faire un choix. Vous savez que Jésus est le Fils de Dieu. Vous savez qu'il est venu sur la terre pour une seule raison, parce qu'il nous aime. Et il avait besoin de nous sauver de nos péchés. Il savait que sans son sang, on était perdus. De sa propre volonté, de son propre gré, personne n'a ôté sa vie, il a donné. Il a pris une décision de mourir, de verser son sang. Et ce matin, je vous pose la question, est-ce que vous avez personnellement reçu ce don gratuit que Jésus vous a offert? Ce n'est pas une question d'aller à l'église, vous dites, mais moi je vais à l'église. Bon, aller à l'église ne peut pas vous sauver comme s'asseoir chez McDo ne peut pas faire de vous un hamburger, comme on dit. Vous dites, oh mais je lis ma Bible, lire la Bible ne peut pas faire de vous un chrétien non plus. On voit des personnes qui connaissent beaucoup les Écritures, mais ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Voici la question qu'il faut se poser. En quittant la baptiste aujourd'hui, votre cœur arrête de battre. Écoutez-moi bien. est-ce que vous avez l'assurance à 100% que vous irez directement au ciel? Sinon, j'ai une bonne nouvelle. Ce n'est pas une invitation de vous rejoindre à cette église, forcément. C'est une invitation d'accepter un cadeau que Jésus vous a offert. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, tout le monde dit don gratuit, de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et si tu confesses avec ta bouche le Seigneur et tu crois dans ton cœur que tu l'as ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêt à rencontrer votre Dieu? Sinon, je vais juste vous donner l'occasion. Dernier verset, Jésus-Christ qui parle. Et je lui cite, Jésus, le Fils de Dieu, le Roi des Rois, celui qui est assis sur le trône et qui nous regarde maintenant même et qui est ici présent par son esprit. Jésus a dit, si tu me confesses de ta bouche devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est au ciel. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à confesser Jésus et de dire oui, j'y crois. Je crois qu'il est mort pour moi. Je crois qu'il est ressuscité. Je veux lui donner ma vie. À partir d'aujourd'hui, je veux être sûr et certain que mes péchés sont pardonnés, que j'ai une place réservée pour mon ciel. Je vais compter à trois. Je vais taper ma main. Et si vous êtes là et vous avez besoin de donner votre vie à Jésus et vous n'avez pas honte de Jésus, juste levez la main haut dans l'air. Un, deux, trois. Qui veut donner sa vie à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a deux personnes ici en arrière. Je sens. Et si c'est la première fois que vous avez fait cela? Donc, voici notre invitation. Si vous avez déjà fait cela et vous voulez revenir à Jésus, vous vous êtes éloigné de lui, levez la main aussi, parce qu'il y a, je pense, trois personnes. Bon. Donc, je vais vous inviter à faire un pas de la foi. Juste de venir, on va prier ensemble. Ceux qui ont levé la main. N'ayez pas honte. N'ayez pas peur. Je pense qu'il y a deux autres personnes qui ont levé la main. Juste, viens, on va prier ensemble. Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, qu'il y a quelques autres qui veulent venir. Alléluia. On revient à Jésus. On vient à lui pour la première fois. Voilà, merveilleux. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour les cœurs braves? Viens ici. Ton nom, c'est Casey. Et toi, c'est Gordon. Et aujourd'hui, vous voulez donner vos cœurs à Jésus, n'est-ce pas? Et on va, est-ce que je connais quelques autres? Je sais que pour toi, c'est pour revenir peut-être au Seigneur, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on peut prier cette prière ensemble? Je vais vous inviter à prier cette prière. Et on va vraiment faire ça de tout notre cœur, OK? Le Seigneur va entendre. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que le Saint-Esprit va entrer dans votre cœur. Il va vous purifier, vous laver. C'est comme si vous n'aurez jamais fait quoi que ce soit de mauvais. Vous allez pouvoir partir à zéro, une nouvelle vie avec Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Il nous aime tellement. Donc, on va faire cette prière avec Stacy et Gordon. C'est Stacy et Gordon. Et avec les autres qui sont venus. On va prier cette prière. Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus. Et je confesse avec ma bouche que tu es mon Seigneur. Que tu es mon Maître. À partir d'aujourd'hui, je veux te suivre. Je veux vivre pour toi. Tu es mort pour moi. Tu es ressuscité. Et à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de ma vie, je vais te servir. Merci que tu m'as donné la vie éternelle. Il y a une place pour moi, réservée au ciel. Je t'aime, Seigneur. Et je te remercie que je suis sauvé au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est bon. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ces deux-là? Vous savez, on a une Bible qu'on veut vous donner.